Bonjour. Alors, mon intervention qui porte sur les processus de labellisation dans l'Atlas marocain, elle est le fruit de réflexions que j'effectue dans le cadre d'un postdoc et aussi d'un programme de recherche du LABEX, donc le programme Singulariser les territoires de montagne, approche critique des processus de labellisation dans les constructions territoriales. Je m'intéresse au processus par lesquels des acteurs d'un territoire cherchent à révéler et à faire connaître ce qui, à leurs yeux, en fait un territoire spécifique. Et un moyen de singulariser un territoire, c'est d'obtenir un label, puisqu'il constitue une reconnaissance de cette singularité. Alors, les territoires de montagne, notamment les plus marginalisés, sont particulièrement concernés par ces processus de labellisation. Et je précise que par marge, j'entends des espaces qui sont défavorisés dans le cadre de régimes économiques et politiques spécifiques. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans ces espaces, toute une littérature estime que les acteurs semblent n'avoir d'autre solution que d'essayer de retourner le stigmate, de retourner la situation à leur avantage. C'est ainsi que les labels sont souvent perçus par les acteurs comme des moyens pour lutter contre la marginalisation. Mais pour obtenir un label, il faut se plier à des critères souvent formulés ailleurs, ce qui suppose des adaptations et éventuellement des innovations. Donc j'envisage les territoires marginalisés comme des lieux d'innovation sociale potentiels, dans plusieurs sens que je vais explorer ici. D'abord, je m'appuie sur le champ de l'économie territoriale qui aborde la révélation de patrimoine ou de singularité culturelle comme un moyen d'inventer des nouvelles ressources territoriales. Alors, dans cette perspective, labelliser, ça permettrait de requalifier des territoires laissés pour compte, ou en tout cas de les distinguer par rapport aux autres en faisant reconnaître leur qualité. Première approche. Innover, pour moi, c'est aussi jouer sur des dynamiques de transnationalisation. C'est-à-dire que les acteurs de la labellisation sont souvent en fait des acteurs de la société civile qui viennent se brancher sur des réseaux internationaux. On pourra se demander si c'est une innovation. Pour aborder ce processus de reconfiguration des jeux d'échelle et d'acteurs, je mobilise là plutôt le champ hétéroclite des études transnationales. Et puis, un troisième sens, innover socialement, ça veut dire aussi, pour moi, bousculer les rapports de pouvoir qui font des marges, des espaces qui sont des espaces dominés et faire en sorte que s'affirment les groupes les plus marginalisés socialement. Donc là, je considère que les processus de labellisation sont des arènes politiques au sens où s'y confrontent des représentations, des savoirs différents du territoire qui est concerné par la labellisation et où finalement se négocient des rapports de pouvoir entre pouvoir public et société civile et à l'échelle locale aussi entre groupes sociaux. Alors, à la suite de Foucault, je m'intéresse au savoir comme moyen de domination. J'analyse les types de savoir en jeu dans les processus de labellisation. Et puis, à la suite de Certeau, j'analyse comment les acteurs des marges vont s'efforcer de déployer des stratégies qui vont viser à faire avec des contraintes établies par les acteurs qui accordent la labellisation de manière à mieux les utiliser à leur profit. Donc la question que je pose finalement, c'est de savoir si la labellisation requalifie ou au contraire disqualifie certains territoires et exclut certains groupes sociaux. Donc est-ce que c'est vraiment une innovation territoriale? Je vais donc en fait étudier les modalités des processus de labellisation et leurs effets sociaux et territoriaux. Alors, répondre à ces questions demande d'explorer un cas précis. Mon cas, c'est celui de Talilin Taznart, donc une région qui est située dans l'anti-Atlas, dans le sud du Maroc. Qui est une région à l'écart des grands pôles urbains et touristiques, qui a été délaissée par les pouvoirs publics au point qu'elle reste une terre d'émigration encore actuellement. Elle est défavorisée au plan social dans le sens où le taux de pauvreté est très supérieur à la moyenne rurale. Et puis, autre particularité, c'est une région où l'altitude oscille entre 1000 et 1300 mètres, où l'eau est rare, et où on cultive traditionnellement le safran. Donc, c'est une production qui s'élève à peu près 5 tonnes par an, et qui, en 2010, a obtenu l'indication géographique protégée. Alors, pour savoir à qui et à quel territoire bénéficie le label, J'ai adopté différentes méthodes, des méthodes de type ethnographique, donc entretien semi-directif informel avec les acteurs concernés, observation directe, avec de nombreux séjours sur le terrain depuis 2010. Puis je me suis aussi appuyée sur toute la littérature grise, sur les documents des ONG et des pouvoirs publics qui concernent la filière safran et la labellisation. En fait, l'idée, c'était de confronter, de croiser le point de vue des acteurs qui soutiennent la labellisation ou qui l'accordent d'un côté, et de l'autre côté, regarder le point de vue des acteurs qui n'ont pas de pouvoir de décision, direct en tout cas, pour voir comment ils perçoivent le label, comment ils font avec le label. Alors, premier point, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la région a alimenté une émigration particulièrement intense après la Seconde Guerre mondiale, surtout vers la France, et qu'à partir du milieu des années 90, les migrants ont commencé à s'organiser en associations, ce qui fait que on a un gros acteur local qui s'appelle Migration et Développement, qui a été créé en 1986 à L'Argentière-l'ABC par des migrants qui avaient été licenciés de chez Pechiney. Et donc, avec leur prime de licenciement, ils ont commencé à réaliser dans leur région d'origine, via cette association, des équipements de base, donc électricité, eau potable, route. L'association a ensuite pris de l'ampleur. Elle est devenue maintenant une ONG de solidarité internationale, dans laquelle les descendants des migrants n'interviennent maintenant plus directement. Ça veut dire qu'ils donnent des fonds pour la réalisation des projets au Maroc, mais qu'ils ne les suivent plus directement sur le terrain. À partir des années, enfin du milieu des années 90, MD, donc Migration et Développement, a cherché à créer de nouvelles activités génératrices de revenus, comme on dit, et s'est efforcé de valoriser le safran. Alors, l'idée, en fait, c'était d'essayer de mieux faire face aux intermédiaires qui achètent le safran à bas coût au souk, et de structurer la filière pour encourager les producteurs à se regrouper en coopératives et en groupements d'intérêts économiques. Donc l'idée, c'était aussi de chercher à structurer la filière en développant des réseaux de commercialisation équitables. Des associations ont été créées en France par les femmes migrantes et puis par des jeunes migrants, ce qui a permis de développer un peu ces réseaux-là. Et puis en parallèle, MD a fait des efforts pour améliorer la qualité, les conditionnements. Il y a eu aussi le premier festival du safran qui a été organisé en 2007 et qui constitue en fait des rencontres professionnelles autour du safran. MD a aussi développé un tourisme qui permettait de valoriser le safran. Il y a un réseau d'auberges qui a été développé, qui propose des séjours de découverte, par exemple avec visite des champs de safran ou des coopératives. Et puis il y a un site internet qui fait la publicité pour ce pays du safran. Les autres acteurs touristiques ont aussi affiché leur volonté de jouer le jeu du safran. Ils se sont rassemblés dans une association. Ils ont commencé à réfléchir à la mise en place de circuits spécifiques aussi autour du safran. Donc on peut considérer un peu MD, si vous voulez, comme, si on peut utiliser ce terme, comme l'inventeur du safran comme nouvelle ressource territoriale. Et puis les producteurs regroupés en coopératives et les acteurs touristiques regroupés en associations, comme ceux qui s'efforcent d'ancrer cette ressource dans le territoire. Ensuite, les acteurs publics ont aussi accompagné ces efforts à partir de 2009. Et c'est surtout la région Sousse-Massadra qui a été à l'initiative du projet de labellisation, si bien qu'en 2010, l'IGP a été obtenu. En 2011, il y a aussi l'inauguration de la Maison du Safran, qui a été financée par des acteurs publics, qui constitue un groupement de coopératives qui vendent du safran certifié AOP à la maison. Donc c'est censé être un peu... le point d'orgue de tout ce processus de labellisation. Donc finalement, dans ce cadre, l'ONG MD n'est pas à l'initiative du label, mais elle joue un rôle d'intermédiaire entre tous les acteurs qui interviennent dans la filière. Et il y a vraiment l'idée d'essayer de renforcer l'image de la région autour du safran. Donc finalement, MD a un peu inauguré une sorte de nouvelle manière d'agir en réseau entre les deux rives, donc avec circulation de personnes, mais aussi circulation de capitaux, d'idées. Et l'idée, c'était de mettre ces réseaux-là au service d'une recherche d'ancrage à un territoire. Bon, maintenant, on va voir un petit peu quels sont les effets sociaux et territoriaux de tout ce montage et de tout ce processus de labellisation. Bon, d'abord, il faut bien voir les avantages que ça représente pour l'ensemble de la région, puisque le principe de l'AOP, c'est que tous les stades de fabrication du produit doivent avoir lieu dans la région. Donc, de fait, ça favorise les producteurs de Talioui, notamment par rapport à ceux de l'Ourika, qui est donc une nouvelle région de production au Maroc. Par ailleurs, la qualité du produit a été améliorée, surtout dans les coopératives, ce qui a permis de gagner la confiance des acheteurs, de gagner de nouveaux marchés et d'augmenter les prix de vente pour tout le monde et pas seulement pour les coopératives. Mais pour autant, l'AOP n'a pas tellement permis de construire une image solide du territoire pour plusieurs raisons, essentiellement parce que la structuration de la filière safran et la labellisation ont été décidées et appliquées par le haut, donc essentiellement par MD et par les autorités marocaines. Du coup, il y a encore beaucoup de dysfonctionnements dans les coopératives, mais aussi dans la maison du safran, ce qui fait que les producteurs ont encore du mal à s'approprier ces outils, ces structures et à se coordonner entre eux. Il n'y a pas non plus aussi une grande coordination entre les producteurs et les acteurs touristiques. Par exemple, le Festival du Safran, ce n'est pas du tout un événement touristique pensé avec les acteurs touristiques. Et puis, de leur côté, les acteurs touristiques peinent à agir ensemble, notamment le réseau d'auberges peine à se mettre en place. Finalement, MD peine concrètement à articuler les acteurs et à fabriquer une identité du territoire qui serait plus lisible et plus forte. De plus, l'AOP semble plutôt accentuer les inégalités sociales essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que l'AOP a en fait peu de légitimité sur le marché international. Donc, pour avoir accès au marché international, il vaut mieux chercher à obtenir, par exemple, la certification EcoCert. Et ça, seules les entreprises privées ou les gros producteurs peuvent se la payer. Le deuxième élément, c'est que les coopératives n'ont pas de fonds de roulement, donc elles ne peuvent pas payer complètement les producteurs, elles ne peuvent payer complètement le producteur qu'une fois que le safran a été vendu par la coopérative. Or, pour la très grande majorité des producteurs, le safran, c'est comme une assurance vie, c'est-à-dire qu'on la vend quand on a besoin d'argent, et on a besoin de l'argent tout de suite. Donc on préfère vendre au souk à un prix plus bas, en général. Du coup, environ seulement à peu près 30% des producteurs adhèrent à une coopérative et peuvent potentiellement bénéficier de l'AOP. Donc finalement, en fait, ça fait dire à pas mal de producteurs que pour avoir l'AOP, il faut déjà être riche, puisqu'il faut pouvoir se la payer et ne pas avoir besoin de l'argent dont on bénéficie quand on vend le safran tout de suite. Pour autant, il est difficile de faire une géographie des productions qui sont pas certifiées, puisque même dans les villages et les plateaux les plus reculés, comme ici à Tisli, où les conditions dites naturelles rendent effectivement plus difficile la culture du safran, la non-certification s'explique plutôt par la marginalisation sociale. Donc ça veut dire que ce sont des endroits où les paysans font de l'agriculture de subsistance, qui pensent avant tout à la survie, et que financièrement, ils ne peuvent pas se permettre de vendre à la coopérative. Surtout, les savoirs qui sont valorisés dans l'AOP et par les coopératives ne sont pas ceux des paysans. Donc le cahier des charges a des demandes très strictes en matière d'hygiène, de choix des bulbes ou d'irrigation qui doit se faire avec de l'eau propre, par exemple. Et souvent, les paysans n'ont pas les moyens de s'adapter puisqu'il y a peu de formation. Ils n'ont pas forcément les compétences pour le faire et surtout, ils n'ont pas les moyens financiers. Parce que le safran ne se collecte qu'une fois dans l'année et le reste du temps, on ne peut rien planter dans les parcelles. Donc même si le safran se vend plus cher que les autres produits, l'investissement de départ nécessaire pour répondre aux exigences du cahier des charges est trop important. Donc le fait de ne pas pouvoir être dans une coopérative ni bénéficier de l'AOP nourrit en fait finalement encore davantage le sentiment d'être exclu. Il n'y a pas non plus vraiment de stigmatisation des territoires exclus de la zone de l'AOP. Je vous ai parlé des producteurs de l'Ourika. Ceux-là, en fait, réussissent à avoir des labels internationaux. Ils ont aussi des réseaux de commercialisation qui font qu'ils se passent très bien de l'AOP. Par contre, on peut dire qu'il y a un risque de banalisation du territoire labellisé, puisque là encore, ce sont plutôt les gros producteurs et les grosses entreprises privées qui vont avoir les moyens de se démarquer des autres par le packaging ou par la création de produits dérivés. C'est finalement à l'échelle de la région qu'on peut parler de renforcement des inégalités territoriales, puisque je vous ai dit que la zone de l'AOP s'étend sur la région de Talini, mais aussi celle de Tazmart, qui est un peu plus à l'est. Et d'ailleurs, c'est même dans la région de Tazmart qu'on a la plus grande surface cultivable en safran. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on y trouve beaucoup moins de coopératives dans cette région de Tazmart. Et dans le GIE de la Maison du Safran, les coopératives de Tazmart sont peu nombreuses, sont sous-représentées. Ça tient à des rivalités historiques entre les deux territoires. Les choses sont en train de changer un petit peu parce qu'on a une entreprise pharmaceutique belge qui change la donne, qui cherche en fait un approvisionnement de qualité qu'elle ne trouve pas à Talyouin parce qu'on ne produit pas suffisamment de safran de qualité. Donc du coup, elle va le chercher ce safran de qualité dans la région de Tazmart. Donc le rapport de force est malgré tout en train de changer. Les producteurs qui sont défavorisés par l'AOP, loin de subir la situation, font pourtant avec elle. Alors le système D, c'est en fait de faire jouer les liens familiaux, les liens tribaux pour trouver des réseaux de commercialisation. C'est aussi de vendre directement aux touristes quand c'est possible. Donc c'est par exemple le cas de manière saisonnière à Tislit, puisque le village est proche de gorges que visitent les randonneurs. Certains parviennent aussi à travailler pour une entreprise privée, donc de préférence pharmaceutique, comme c'est le cas dans la région de Taznart. Et puis, une autre solution reste encore de migrer, puisque le migrant pourra envoyer de l'argent qui permettra de développer l'exploitation agricole, voire de se payer le luxe d'adhérer à une coopérative et de bénéficier de l'AOP. Enfin, il y a des projets de migration et développement pour développer l'agroécologie. L'idée, en fait, serait de favoriser la multiculture et non la monoculture du safran, et d'essayer de penser le développement de l'AOP, le développement de la filière safran et l'AOP dans le cadre d'une vision systémique d'un vrai projet de territoire. Bon, encore faut-il que ce ne soit pas un nouveau projet imposé par le haut, mais qu'il soit vraiment approprié par les acteurs locaux et qui en seraient les véritables acteurs. En conclusion, on peut dire que le cas du safran de Tayourine montre que les acteurs des marges sont peut-être innovants en ce qu'ils inventent de nouvelles manières d'agir en réseau. C'est le cas de Migration et Développement qui en fait se branche sur des réseaux internationaux de migrants, tout en jouant la carte aussi des réseaux nationaux, donc la carte de l'intégration, de l'insertion nationale, donc celle des aides accordées par des acteurs publics pour labelliser, peut-être première manière d'innover socialement. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que pour autant, l'insertion du territoire de Tayourine dans des réseaux multiples et d'échelles variables semble renforcer les rapports de domination. Donc la labellisation accroît la marginalisation sociale des petits producteurs. Elle accroît aussi leur soumission aux acteurs qui dominent le processus, donc que ce soit des grosses ONG ou bien des acteurs publics, et aussi leur soumission aux logiques de marché, qui vont en fait dicter la valorisation de savoirs qui ne sont pas ceux des petits producteurs et que ceux-ci vont devoir acquérir. Malgré tout, au lieu d'entrer en conflit avec les acteurs de la labellisation, ces petits producteurs trouvent des arrangements, ce que j'ai essayé de montrer à la fin, pour contourner la labellisation ou à essayer d'en faire une ressource dans des stratégies propres. De cette manière, ils essayent de négocier à la marge leur place dans la société atlasique et marocaine. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce cas et sur ce processus de labellisation.